Maintenant, on va écouter une communication sur la mode et Stéphane Mallarmé par Alice Léger. Donc Alice Léger est diplômée d'une licence en lettres modernes. Elle a ensuite poursuivi par une maîtrise de recherche en médiation culturelle. Et pendant cette maîtrise, elle a travaillé sur son mémoire de recherche intitulé « La mode dans la littérature du XIXe siècle ». La dernière mode de Stéphane Mallarmé. Ensuite, elle a intégré une école de mode, Françoise Comte, en master spécialisé en management de la mode et du luxe. Et sa passion pour l'histoire de la mode l'a conduite à intégrer la maison de vente aux enchères Art Curial au sein du département Hermès Vintage et Fashion Arts, où elle travaille en tant que spécialiste. Et elle est plus particulièrement en charge de l'organisation des ventes dédiées aux pièces Hermès à Paris et à Monaco. Je pense qu'on pourra peut-être avoir l'occasion d'en parler parce que c'est aussi un sujet qui nous intéresse bien, de mêler la recherche, l'histoire et la vente aux enchères, l'expertise. Donc merci beaucoup pour votre intervention sur Mallarmé. Merci.
Merci à vous. Je suis ravie d'être parmi vous. Je parle français. Je vais vous parler de Stéphane Mallarmé et de la mode, et plus particulièrement de la revue de mode qu'il a écrite, donc qui s'appelle La dernière mode, en 1874. Au XIXe siècle, la mode et la presse entretiennent des relations qui sont assez complémentaires, dans le sens où la mode alimente le contenu de la presse et la presse fait écho de la nouveauté de la mode, bien sûr dans une visée promotionnelle, mais aussi pour faire une critique, pour stimuler le renouveau de la mode. Toutes les revues dans la première moitié du 19e sont vraiment adressées. Les premières revues au XIXe siècle s'adressent particulièrement à une élite mondaine. Ces revues se placent vraiment comme un conseiller en goût et en savoir-faire, et en savoir-vivre, pardon. Journal des dames et des modes, à cette époque, est vraiment considéré comme le guide ultime du bon goût et du savoir-vivre. À cette époque, toutes les lignes éditoriales sont vraiment influencées par la littérature, sans doute parce qu'on est dans une vague du romantisme. Par exemple, toutes les rubriques mode à cette époque sont écrites dans un style épistolaire. Donc la chroniqueuse va se placer comme une personne qui va écrire à une amie et qui va décrire les tenues. Dès le Second Empire, les revues de mode vont élargir leur cible et vont désormais s'adresser à la bourgeoisie. Donc on assiste là à une ouverture vers un premier pas vers la démocratisation de la mode. Et dans la seconde moitié du 19e, les périodiques de mode se multiplient. En 1852, on compte à peu près une quarantaine de revues de mode. Pour faire face à cette concurrence, les périodiques vont vraiment essayer de se démarquer en augmentant les gravures, en essayant de toujours avoir la plus belle illustration possible, parce que les illustrations sont les reproductions fidèles des tendances à imiter à l'époque. Le périodique La Mode Illustrée, qui a été fondé en 1860, est considéré comme l'un des journaux de mode les plus importants de cette période. Pour vous donner une idée, entre 1870 et 1890, à peu près 100 000 exemplaires ont été tirés. Dans les débuts des années 1870, beaucoup de revues se créent, mais très peu réussissent à faire face à la situation économique de la période, et c'est notamment le cas de La dernière mode. Dans son intégralité, le titre, c'est La dernière mode, Gazette du monde et de la famille. Cette revue se crée dans une atmosphère de concurrence. Et donc, il va falloir qu'elle se diversifie, qu'elle se démarque par le biais de l'originalité. Donc la mode a toujours fasciné les plus grands écrivains. Claire a précédemment parlé de Balzac. Donc on peut également parler de Théophile Gautier en 1858, qui a démontré dans une revue qui s'appelle De la mode que le vêtement est la particularité même de l'humain en comparaison avec l'animal. Donc beaucoup d'auteurs vont vraiment considérer que la mode a un aspect la mode a un aspect esthétique et que c'est un élément constitutif du beau. Donc le beau, c'est la célèbre notion poétique de Baudelaire. Et ce dernier va d'ailleurs écrire une courte étude en 1863 dans Peintre de la vie moderne, où il va mettre en relation la mode avec la modernité. Donc il va considérer trois caractéristiques qui sont fondamentales à la mode. Donc la mode est relative, constitutive du beau, et significative de la modernité. Il estime qu'elle est dépendante d'une époque, dépendante d'une histoire et d'un sexe. Il pense que c'est la représentation que la mode est une représentation du présent, ce qui peut expliquer son caractère éphémère. Donc de nombreux écrivains ont vraiment écrit, analysé ou étudié la mode, mais très peu ont rédigé une revue de mode. Donc c'est le cas de Mallarmé, Stéphane Mallarmé, qui de septembre à décembre 1874 a été le rédacteur exclusif de la dernière mode. Donc Mallarmé a rapidement montré son intérêt pour la rédaction d'un magazine. Dès 1867, Mallarmé songe à écrire dans une revue de luxe, L'Art décoratif. Il va d'ailleurs en faire part en 1872 dans une lettre à José María de Heredia. Dès 1874, il fait la rencontre de son voisin, Charles Wendelen, qui est propriétaire et éditeur de la dernière mode. Donc, sous sa direction, la dernière mode aurait débuté à l'été 73, mais ça n'aurait été qu'une revue de lithographie et de gravure sans texte. Et donc dès 1874, il fait la proposition à Mallarmé de créer une nouvelle formule, mais cette fois-ci avec du texte. Donc Mallarmé va accepter et va devenir le directeur littéraire de la dernière mode. Donc il se retrouve à la tête du journal comme unique rédacteur et il va emprunter des pseudonymes pour cacher sa véritable identité et il va se dérober sous des pseudonymes, sous des traits féminins, sans doute pour avoir plus de crédibilité auprès de ses lectrices. Donc, la dernière mode, au total, il y aura 8 numéros qui vont sortir. Un numéro tous les premiers et troisièmes dimanches du mois. Donc, cette aventure journalistique ne va durer que quelques mois. Donc plus précisément du 6 décembre au 20 décembre 1874. Le propriétaire reste Charles Wendelen, sous le pseudonyme de Marascoin. On le voit d'ailleurs, donc ça c'est une de la dernière mode, et on voit juste au milieu Marascoin, donc, qui est le propriétaire et qui est donc Charles Wendelen. Toutes les gravures et lithographies sont faites par Edmond Morin, qui avait notamment l'habitude de travailler dans les revues de mode de l'époque. Mallarmé donc endosse toutes les responsabilités, que ce soit de la rédaction à la gestion financière de la mode. Et donc tout au long de son entreprise journalistique, il va collaborer avec des grands noms de la littérature, tels que Théodore de Banville, François Coppé, Alphonse Daudet, Albert Mera ou encore Sully Prudhomme. Seuls Émile Zola et Villiers de l'Isle-Adam n'auront pas le temps d'écrire et de collaborer dans la dernière mode. Donc Mallarmé va vraiment tenter de se diversifier par la mise en page, la typographie de la dernière mode. Et il va essayer de créer diverses rubriques, donc notamment une rubrique qui s'appelle la mode, qui va apporter toutes les précisions sur les nouvelles tendances. On a aussi Gazette de la Fashion qui rend compte de la mode à l'international. Chronique de Paris qui va parler de toutes les nouveautés théâtrales, littéraires ou encore des événements sur Paris. Et Correspondance avec les abonnés, qui aura cette rubrique aura une place assez importante pour Mallarmé puisque c'est dans cette rubrique qu'il va échanger et s'adresser directement avec ses lectrices. Donc au fur et à mesure, Mallarmé va vraiment prendre son rôle de chroniqueur très au sérieux et on va voir qu'il va vraiment se mettre de plus en plus à l'aise dans ce nouveau rôle. Il va quand même rencontrer quelques difficultés au début de sa prise de fonction, donc notamment dans la maîtrise de la méthode de synthèse qui est propre au style journalistique, parce qu'il n'en a vraiment pas l'habitude. D'ailleurs, ses premiers textes montrent clairement qu'il y a un manque d'expérience de sa part, parce que ces textes sont vraiment longs, sont impersonnels, c'est des blocs durs, assez durs à digérer. Et au fur et à mesure, la lecture va vraiment être de plus en plus fluide. Donc au début, il va adopter tout simplement les conventions des journaux de l'époque, sans doute pour vraiment satisfaire au début ses lectrices. Puis, au fur et à mesure, il va rendre cet aspect trop rhétorique, va de plus en plus prendre une note littéraire et artistique. Il va d'ailleurs considérer que le quatrième numéro, donc c'est vraiment la moitié des publications, est le véritable commencement de la dernière mode. Donc il va utiliser de plus en plus un vocabulaire précis, il va être de plus en plus minutieux dans ses descriptions, jusqu'à devenir presque un spécialiste de la question. Une fois qu'il se sentira vraiment à l'aise dans son rôle de chroniqueur, il va publier une traduction de Mariana, de la Mariana de Tennyson, sous son vrai nom. Donc c'est le seul travail avoué et signé de son vrai nom qui sera publié dans la dernière mode. Donc tout au long de son entreprise journalistique, Mallarmé va attacher beaucoup d'importance aux couleurs, notamment au bleu qui est la couleur dominante de la dernière mode. Donc comme vous pouvez le voir sur la première image, c'était la couleur de la couverture. Il va suivre en fait les couleurs des saisons, donc de la fin de l'été jusqu'au début de l'hiver. Et toute sa poétique va vraiment être développée au travers de cette thématique de la nature qui va être abordée souvent, enfin tout le temps, dans ses rubriques. Donc le fondement de la poésie mallarméenne se fait dans la suggestion et dans le rythme. On constate dans ses chroniques que Mallarmé joue beaucoup avec le rythme notamment en retardant l'apparition de la description et surtout en retardant le dévoilement de l'objet qu'il décrit. Il va d'ailleurs expliquer, alors il parlait plus à ce moment-là de ses poèmes, mais il va parler de la suggestion lors d'un entretien avec le journaliste Jules Huret, et il va dire « Nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui est faite du bonheur de deviner peu à peu. Le suggérer, voilà le rêve. C'est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole. Évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d'âme ou, inversement, choisir un objet et en dégager un état d'âme par une série de déchiffrements. » Donc c'est vraiment la technique qu'il va utiliser dans ses descriptions. Donc il va surtout principalement se focaliser sur les objets, sur les vêtements plus. Et il va décrire les habits indépendamment du corps, c'est-à-dire qu'il va parler de chapeau et non pas de tête, il va parler de pieds, il va parler de chaussures et pas de pieds, de jupes et pas de jambes. Et pour parler de toute cette de ces vêtements, de ce de ce faux corps humain, il va utiliser l'image du vaporeux. Donc ça va ainsi suggérer toute l'image du corps féminin. La huitième livraison, donc, est la dernière le dernier numéro de la dernière mode. Donc c'est le 20 décembre 1874. Et la rubrique « La mode » fait office d'épilogue. C'est comme si Mallarmé, en fait, savait déjà que c'était la fin, parce qu'il adresse des remerciements dans sa chronique. Il va vraiment faire ses adieux au genre journalistique, non sans regret. Donc, en fait, la grande diversité des sujets qu'il va aborder, la collaboration avec des artistes vraiment d'une grande renommée et toute la qualité rédactionnelle qui a été reconnue par les lectrices n'ont malheureusement pas suffi à garder, à sauver la dernière mode. Donc Mallarmé le voit vraiment comme un échec personnel puisque c'est lui qui assumait toutes les responsabilités de la revue. Et donc, la revue est revendue à la baronne de Lomaria, qui va investir plus d'argent et qui va vraiment transformer la revue. Ce ne sera plus une revue de mode, ce sera désormais une revue populaire qui va parler de divers sujets. Seulement 2 numéros vont paraître. Et le 22 mai 1875 est la date officielle de la fin de la dernière mode. Donc cette fin pour Mallarmé est vraiment brutale. On peut supposer assez facilement que c'est à cause de l'argent. Le journal ne génère pas suffisamment d'argent pour pouvoir subsister sur le marché. Et aussi le manque de modernité de la revue peut être aussi une cause, puisque Mallarmé parle très bien de toutes les nouvelles tendances, mais il ne prête pas du tout attention à toute l'évolution de la commercialisation de la mode. Parce que donc lui, il va vraiment décrire des vêtements pour que les lectrices aillent chez des couturières pour se faire les modèles. Sauf que maintenant, les collections sont désormais... les collections existent, et les dames veulent seulement des exemples, des modèles qui existent déjà, et elles veulent des renseignements sur ces modèles qui existent déjà. Donc, il y a un décalage qui se fait entre la dernière mode, entre les attentes des lectrices et ce qui se fait sur le marché. Donc maintenant, les lectrices y ont vu une sorte de revue qui est ancienne et dépassée. Donc finalement, la dernière mode est assez caractéristique de l'ambivalence qu'il peut y avoir entre la mode et la littérature. Mallarmé, en adoptant toute la technique journalistique et en y associant sa poétique, a fait de la mode un sujet d'étude dans un journal, mais il a aussi considéré que le journal de mode pouvait être une branche à part de la littérature. Il définit d'ailleurs la dernière mode comme un recueil qui veut étudier la mode comme un art. Donc, au cours de sa carrière littéraire, Mallarmé ne donne aucune information, aucune explication sur la dernière mode. Il n'en a jamais parlé, c'est devenu presque comme un travail caché. Il n'a nommé la dernière mode qu'une seule fois dans une lettre à Paul Verlaine en 1885. Donc, je cite. « Si à un moment pourtant, désespérant du despotique bouquin lâché de moi-même, j'ai après quelques articles colportés d'ici et de là, tenté de rédiger tout seul, toilettes, bijoux, mobilier, et jusqu'au théâtre et au menu de dîner, un journal, la dernière mode, dont les 8 ou 10 numéros parus, servent encore quand je les défais de leur poussière, à me faire longtemps rêver. » Donc peu à peu, la dernière mode a quand même été connue par le public, à tel point que ça s'est vendu à 56 000 euros chez Sotheby's en 2015. Le 17 octobre 1984, à l'occasion d'un cocktail organisé par le président de la République, François Mitterrand, il a rendu hommage à Mallarmé et à son travail de rédacteur en disant la création des styles de mode peut être considérée comme l'un des beaux-arts. Telle était déjà la pensée de grands créateurs d'autrefois. Mallarmé avait créé un journal de mode en 1874 et parmi ses collaborateurs, il y avait François Copé, il y avait Lille Adam, Émile Zola. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ?
Merci beaucoup. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des noms justement de pseudonymes qu'utilisait Mallarmé pour écrire ? Je ne crois pas que vous l'ayez cité.
Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas cité. Il y a Marguerite de Ponty, par exemple. Il y en a d'autres. Il y a... Excusez-moi. Il y a YS aussi. Il y en a différents. En fait, il utilisait un pseudonyme par rubrique. Ah, d'accord. Et à chaque rubrique, il utilisait le même pseudonyme. Voilà.
Ok, merci.
Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. J'étais très intéressée par l'argument que vous avez développé sur les attentes des lectrices et cette espèce de décalage qui existait.
Oui.
Qu'est-ce qu'elles attendaient au juste, d'après vous, puisque vous disiez qu'en fait, elles s'attendaient à pouvoir chez la couturière. Donc, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ?
Alors, en fait, ce que j'entends par le manque de modernisation de la dernière mode, c'est que Mallarmé fonctionne encore dans une visée où les bourgeoises de l'époque allaient chez des couturières pour se faire faire sur mesure des tenues. Donc, lui, il était vraiment dans une description de « il faut porter telle robe pour telle occasion ». Alors que, en fait, à la fin de l'année 1874, le système de collection qu'avait engendré Charles Worth avait débuté, et donc les lectrices attendaient certainement davantage de renseignements sur on peut trouver tel modèle qui existe déjà à tel endroit, à telle boutique. Plutôt qu'un patron, où il fallait vraiment aller chez une couturière et se le faire faire sur mesure. C'est une idée que j'ai proposée.
Du coup, si on n'a pas 56 000 euros, où est-ce qu'on peut... est-ce que ces dernières modes sont accessibles facilement en bibliothèque ? Enfin, où est-ce qu'elles sont accessibles ?
Alors, il y a eu des rééditions qui ont été faites. Donc la Pléiade a fait une réédition, mais sans les illustrations, donc juste le texte. Il y a aussi une édition qui a été faite dans les années 30, mais qui a supprimé des rubriques. Le format a changé, on n'est plus sur une couverture bleue, mais sur une couverture jaune, donc c'est pas vraiment la même chose. Sinon, c'est à la BNF, mais c'est pas accessible à tout le monde. Moi, j'ai pas pu y accéder.
D'accord.
Donc, peut-être que, entre le moment où j'ai fait mon mémoire et maintenant, ils l'ont numérisé. Mais sinon...
Du coup, vous avez travaillé sur quel format
J'ai travaillé sur le format de Rod, celui qui a été réédité en jaune.
D'accord. Ouais.
Oui, j'aurais voulu savoir pourquoi est-ce que Mallarmé a accepté de diriger cette revue ? Est-ce que lui-même avait une appétence forte pour la mode ou qu'est-ce qui l'a poussé en fait à se lancer dans cette entreprise ?
En fait, donc il a commencé à parler d'une envie d'écrire dans une revue en 1867. Et il en a fait part dans une lettre donc en 1872. Il a dit d'ailleurs « Je recueille maintenant dans les différents coins de Paris la souscription qu'il faut pour commencer une belle et luxueuse revue dont la pensée me domine, l'art décoratif Gazelle mensuel. Donc son envie d'écrire sur la mode, honnêtement, je ne pourrais pas vous donner d'explications concrètes. Il a toujours été intéressé par ce milieu, parce qu'il a toujours considéré la mode comme un art. Donc, je pense qu'il était vraiment intéressé par toutes les fantaisies qu'il pouvait y avoir à l'époque, et aussi toute la visée peut-être sociologique, c'est-à-dire pourquoi les femmes partaient pour la chasse, mettaient-elles tenue, pourquoi une mariée s'habillait de cette manière. Donc, il a toujours montré vraiment un intérêt certain pour la mode. Après, il s'en est jamais expliqué. Donc, ça ne peut qu'être des suppositions.
Alors, moi, je voulais revenir un peu sur la question des collections. En fait, quand vous dites qu'il y avait déjà des collections préparées, et que donc il y avait eu un décalage de Mallarmé parce qu'il n'a pas compris ça. Mm-hmm. Vous voulez dire que, il aurait dû faire son journal comme une espèce de vogue qui dit allez trouver ces vêtements-là chez Balenciaga plutôt que chez Dior. Est-ce que ça marche comme ça ou...
Disons qu'il n'a pas, suivi l'évolution de la mode, enfin de la commercialisation de la mode. Lui, il est vraiment resté sur l'ancien système où c'était que suture de sur-mesure. Donc, pas forcément déjà rentrer comme un système dans vogue, mais commencer à amorcer cette idée de, voilà, maintenant, désormais, des modèles existent, vous pouvez en trouver à tel endroit ou à tel endroit. Plus que dans cette idée de les vêtements ne se font que sur mesure.
Bon, merci.
Dernière question sur cette histoire de collection. est-ce que vous avez remarqué quels étaient les types de vêtements qu'il décrit ? Est-ce que c'est plutôt les vêtements de dessus, de dessous, de tous les moments de la journée ?
Alors, dessus...
Les manteaux ?
Il va faire une chronique. Alors, il va chaque numéro va être dédié à une tenue. Donc, il va parler la dernière livraison, ça va être sur une robe de mariée. Il va aussi aborder les tenues de chasse. Il va également aborder les tenues pour les bébés. Et dans sa première livraison, premier numéro, parce que Mallarmé parle de livraison, enfin pas de numéro, il ne va pas faire une rubrique sur les vêtements, il va faire une rubrique sur les bijoux, qu'il considère vraiment comme accessoires indispensables dans le milieu de la mode. Donc c'est toujours des vêtements de dessus.
Il parle dans un de ses numéros des costumes masculins.
Non, c'est vraiment, c'est que pour les femmes, et il se place lui-même donc en tant que femme, et c'est vraiment, il n'y a pas de, c'est que pour les femmes.
Merci. Merci.